Voix Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Ebola en RDC, mise en garde de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a suspendu ses activités à Beni, province du Nord Kivu dans l'est du pays, après le massacre d'une vingtaine de personnes. L'agence onusienne lance un avertissement ce mardi concernant ce qu'elle appelle une conjonction optimale de facteurs qui menace la réponse humanitaire à l'épidémie d'Ebola dans le pays. La tuerie de samedi soir, à quelques centaines de mètres du centre-ville de Beni, a fait 21 morts, 17 civils et 4 militaires, selon un responsable de l'armée nationale congolaise qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Pour leur part, les habitants de Beni ont décidé de prolonger leur grève générale jusqu'à vendredi pour protester contre le massacre attribué par les autorités congolaises aux miliciens ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées présentes dans la région. Selon Peter Salama, directeur général adjoint de l'OMS en charge des réponses d'urgence, la suspension des activités de l'OMS signifie que lundi, plus de 80% des personnes menacées d'un risque immédiat d'Ebola n'ont pas pu être atteintes à Beni et dans ses environs où l'agence onusienne dispose d'un centre opérationnel. Au Cameroun, la campagne électorale lancée samedi dernier pour la présidentielle du 7 octobre continue. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis novembre 1982, est de nouveau le candidat du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le chef de l'État fait face à 8 adversaires dans un scrutin à un tour. Quelles sont les chances des uns et des autres? Timothée Donormaille a interrogé à ce propos Mathias Eric Orona Ngini, professeur de sciences politiques à l'université Yaoundé 2.
Le RDPC a de l'avance, mais il doit faire aussi face au fait que de nombreux segments de la population camerounaise sont en quelque sorte lassés de la longue présence au pouvoir, non seulement du président Biya, mais de son parti. Dans les formations d'opposition, le SDF bénéficie du rajeunissement entamé avec la candidature de Joshua aussi. Il entend déployer son appareil politique qui s'est constitué depuis une vingtaine d'années, qui est fortement ancré dans les régions du nord et du sud-ouest, même s'il n'y a pas pu constituer des positions dans le littoral et l'ouest. Cette formation va pâtir de la situation critique qu'il y a dans les deux régions du nord et du sud-ouest en raison de la présence d'un mouvement armé sécessionniste. Le professeur Maurice Kamto amène un véritable marathon électoral depuis plusieurs semaines, espérant pouvoir faire face à l'implantation du RDPC. Le candidat Kéré Mouna, également, en s'appuyant sur un mouvement citoyen, le mouvement NOW, également essaie de se déployer. Le problème du candidat Mouna, c'est qu'il a récupéré un parti dont il n'était pas initiateur et un parti qui n'a pas une forte implantation. Le candidat Cabral Idi mise sur un répertoire politique qui est fortement tourné vers la soif du changement et surtout l'aspiration des jeunes à participer pleinement au processus politique et à obtenir l'alternance.
Vous avez parlé des troubles dans les zones anglophones du pays. Le Cameroun connaît également des problèmes de sécurité dans l'extrême nord avec les attaques de Boko Haram. Quelles vont être les incidences de ces deux situations sur le scrutin du 7 octobre?
Les situations ne sont pas strictement identiques, même s'il existe de manière résiduelle des violences dans l'extrême nord du Cameroun. La situation est globalement sous maîtrise, même si le potentiel menaçant de Boko Haram n'est pas complètement anéanti. La situation qui apparaît la plus préoccupante, c'est évidemment celle qui existe dans les régions du nord-ouest et du sud-est, les régions des anglophones, en raison de la présence de plusieurs groupes armés sécessionnistes. Mais ces dernières semaines, les forces de défense et de sécurité ont engagé une action de rétablissement de l'ordre qui semble porter ses fruits. On a ainsi vu les équipes du RDPC pouvoir commencer leur campagne dans les villes clés de ces régions-là comme Bamenda et Boya, qui étaient pourtant ces dernières semaines confrontées à l'action de ces groupes armés.
Le professeur Mathias Eric Orona Ngini de l'université Yaoundé 2 au Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Angola, José Filomeno dos Santos, ancien patron du Fonds souverain national et fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos, est en détention provisoire depuis lundi. C'est dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds portant sur 1,5 milliard de dollars. Nani Talani.
Dans un communiqué, le procureur général Alvaro da Silva João a expliqué qu'en raison de la complexité et de la gravité des faits, et afin de garantir l'efficacité de l'enquête, le ministère public a décidé d'appliquer aux accusés une mesure de détention préventive. Selon lui, les éléments rassemblés dans le dossier constituent des preuves suffisantes que les accusés se sont engagés dans des activités de corruption. L'homme d'affaires angolo-suisse Jean-Claude Bastos de Mouret, un des proches de José Filomeno dos Santos, qui a géré une partie du fonds souverain, a lui aussi été placé en détention provisoire. En mars dernier, le fils dos Santos, surnommé Zenou, avait été inculpé pour avoir ordonné des virements suspects alors qu'il dirigeait le fonds souverain angolais. Jusque-là sous contrôle judiciaire, il avait alors promis de collaborer avec la justice. Nommé en 2013 par son père à la tête d'un fonds souverain, José Filomeno dos Santos a été limogé de ce poste en janvier dernier par le nouveau président de l'Angola, João Lourenço.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Côte d'Ivoire, divorce entre le PDCI et le parti du président Alassane Ouattara. Les raisons de cette rupture avec Georges Ibrahim Tunkara, le correspondant de VOA Afrique à Abidjan.
Au terme d'une réunion de son bureau politique à Daoukro, la région natale de son président Henri Konan Bédié, le PDCI s'est donc prononcé en faveur de la rupture avec le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, une coalition mise sur pied en 2005 avec d'autres formations politiques dans le RDR d'Alassane Ouattara et qui a contraint Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir à la suite des élections de 2010. Mais depuis des mois, et surtout depuis son bureau politique du 17 juin dernier, le PDCI avait pris ses distances vis-à-vis de cette coalition. Au centre de la discorde, le projet de création d'un parti unifié auquel la formation d'Henri Konan Bédié s'est montrée peu favorable et la question de l'alternance à la tête du pays en 2020. Désormais libre de tout engagement, le PDCI se dit prêt à engager des négociations avec d'autres forces politiques en vue de la mise en place d'une nouvelle alliance. Pour plusieurs observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire, avec le retrait du PDCI du RHDP, c'est une nouvelle période d'incertitude qui s'ouvre pour le pays. Après 8 années de stabilité et à 2 ans de la présidentielle de 2020, Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique, Abidjan.
À New York, les chefs d'État commencent à arriver pour la 73e Assemblée générale de l'ONU sous le thème de leadership mondial et responsabilité partagée pour des sociétés pacifiques, équitables et durables. Les leaders vont se succéder à la tribune à partir de ce mardi après le très attendu discours d'ouverture du président américain Donald Trump. Plus de détails avec Raïssa Girondin.
Ce mardi, tous les yeux seront rivés sur le président américain Donald Trump. Il devra évoquer l'Iran à la tribune. Le gouvernement iranien a accusé l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux d'être à l'origine d'un attentat qui a causé la mort d'une vingtaine de personnes. Le conflit israélo-palestinien, la décision de l'administration Trump sur Jérusalem, le retrait du financement de l'agence de l'ONU aux réfugiés palestiniens seront autant de questions que Trump pourrait aborder. Un autre thème favori du président américain, c'est que les autres pays membres des Nations Unies doivent apporter plus au budget. Il avait déjà prévenu que les États-Unis ne veulent plus porter ce fardeau financier injuste selon lui. Parmi les grands absents notables figurent le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre indien Narendra Modi. Du côté africain, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président sénégalais Macky Sall et le président ivoirien Alassane Ouattara ne seront pas du rendez-vous. Les missions de maintien de la paix sur le continent seront certainement abordées, tout comme la question migratoire. À l'ouverture de cette 73e session, les pays membres ont rendu un hommage particulier à Nelson Mandela et son combat pour la paix. Raïssa Girondin, depuis le Palais de Verre, New York.
Et pour terminer, Proche-Orient, les employés de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens ont fait grève ce lundi dans la bande de Gaza pour protester contre les licenciements prévus par cette agence, l'UNRWA, suite à l'arrêt des financements américains. Les participants à la grève réclament le rétablissement du financement des activités de l'UNRWA. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.org. www.voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.